c'est Info Club Sandwich.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 juin 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur radiocampusamiens.fr. Comme musique aujourd'hui, nous vous proposons IC de Carré Court et Delicious Things de Wolf Alice. Pour l'interview du jour, Sionia reçoit Alexandre Tourte pour parler de l'exposition photo « Encore là peut-être ». De mon côté, je vous ai préparé une chronique sur Jimi Hendrix. Et enfin, nous finirons par une chronique produite par les radios associatives à l'occasion des 125 ans de la loi de 1901 sur les associations. D'abord, place à l'interview.
Merci Louis. Alors, je suis avec Alexandre Tourte. Bonjour à toi.
Bonjour.
On va parler de ton exposition photo qui s'intitule « Encore là peut-être » et qui est à l'Office de tourisme d'Amiens et dont le vernissage a eu lieu vendredi 19 juin dernier. Avant, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours ?
J'ai un parcours plutôt classique. Alors justement, pas du tout de base sur la photo. J'ai fait la fac d'art, licence art du spectacle en cinéma, qui a débouché du coup sur un master. Donc c'est un master toujours en cinéma, donc analyse critique, valorisation et programmation. Mais en licence, on avait des cours de photographie, en première et deuxième année. Donc là, j'ai pu un peu plus expérimenter. Après, je fais de la photo comme j'imagine tout le monde depuis que je suis ado et que j'avais un Skyblog. Donc concrètement, ça a commencé depuis un petit moment, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment te lancer dans la photo ?
Quand j'ai fini le master, j'ai fait des petits boulots, mais qui n'avaient pas forcément rapport avec l'art. Or, je voulais vraiment me mettre à créer, on va dire, pleinement et être artiste. Et ce qui était plus facile, c'était forcément la photo, puisqu'à la base, vu que je suis dans le domaine du cinéma, c'est toujours plus compliqué de faire des films. Or, la photo, c'était une manière plus directe, je pense, et de faire de l'image, tout simplement. Et du coup, j'ai bossé par la suite. Donc là, j'ai créé mon statut d'artiste-auteur. Et j'ai bossé par la suite avec des compagnies aminoises, donc beaucoup d'amis au final qui eux ont une compagnie de théâtre, et du coup c'est comme ça aussi qu'un peu je suis rentré dans le monde de la photo professionnelle. Et après, de l'autre côté, j'ai aussi ma pratique artistique qui s'est fait surtout autour du voyage.
Ok, et donc là ton projet c'est Encore là peut-être, comment est-ce qu'il s'est mis en place et pourquoi le titre, pourquoi ce titre Encore là peut-être?
Le projet en lui-même, il s'est mis en place depuis un petit moment. Surtout, dans cette série, il y a surtout, on va dire, trois, deux et demi catégories, en fait, de thèmes. Il y a le thème plutôt de l'architecture, donc ça va être tout ce qui va être des photos de mon voyage à Prague avec mon compagnon, qui date de 2024. Et le deuxième thème qui va être plus cette hivernale, je dirais, qui est mon voyage en Laponie avec ma famille, donc en 2025. Et pareil, il y a trois photos qui sont toujours un peu dans le style hivernal, mais un peu différentes aussi, donc qui ont été prises du coup dans les Alpes, où je vais quelquefois faire du ski avec mes parents, dans une petite station familiale. Et pourquoi ce titre ? C'est un peu en relation avec ce que je fais de base, c'est-à-dire que en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément prendre du portrait. Or, quand c'est de la photo de commande, donc c'est ça qui est assez drôle, c'est que quand du coup, je fais de la photo de théâtre, donc là, par contre, c'est vraiment du portrait, la réflexion autour de la communication, montrer le spectacle, mais sans trop en dévoiler. Et par contre, dans ma pratique artistique, ça va être totalement que du paysage, que de l'architecture. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'humains qui apparaissent. Je pars trop loin et du coup je oublie. L'absence de vu qu'il y a de l'absence de personnes, le titre est venu un peu de ça en fait. Encore là peut-être, ça suggère en tout cas qu'il y a les humains, en tout cas sont là ou ne sont plus là, en tout cas il y en a eu, et qu'est-ce qui reste de ce qu'on est un peu et de qui ils sont, surtout vu que c'est du voyage. Donc voilà, en tout cas, il y a des structures, des infrastructures humaines, mais sans prendre de portrait concret, en fait. Voilà, donc encore là, peut-être. Pour moi, ça faisait un peu sens dans ce sens-là, quoi.
D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, tu as pris en photo de l'architecture, les Alpes, les termes un peu hivernaux. Comment est-ce que tu as décidé de où est-ce que tu allais prendre des photos? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller en Finlande pour prendre ça comme photo, ou ça s'est fait sur le coup?
Pas du tout, ouais, ça s'est fait un peu sur le coup. En fait, bon, ça fait un moment déjà que je fais de la photo d'architecture. Je me suis surtout mis en 2018, pareil, voyage familial en Espagne avec mes parents. Donc j'ai pris la plage en photo et les bâtiments de vacances type un peu style années 70. Et il y avait déjà ce système où je changeais les couleurs, parce que là, une grande partie de mon travail, c'est également de changer les couleurs, soit des bâtiments en eux-mêmes et du fond. Et donc, j'avais déjà commencé là-dessus, donc avec des photos un peu plus frontales et autres. Et par la suite, j'ai refait ce processus-là, avec là, en tout cas, ce qui est visible à l'Office du tourisme, il y a encore ce changement de couleur-là. Donc ça fait déjà un moment que j'expérimente tout ce qui est du domaine de l'architecture. C'est pas, voilà, c'est pas venu d'un coup, mais c'est un peu mon centre d'intérêt, en tout cas, c'est ça, quoi. Après, c'est aussi tout ce qui m'inspire autour de la SF, surtout, c'est vraiment ma grosse inspiration. Donc ça en découle un peu, quoi. Et ça change totalement avec la Laponie, qui est là plus de l'ordre du paysage et moins du bâtiment. Donc, y a un peu de ça, quoi.
Okay. Et donc, tu dis que tu t'inspires de la SF, mais aussi des années 70. Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui t'a vraiment, qui t'inspire et donc qui fait que tu utilises telle ou telle couleur dans tes photos?
Pas vraiment. Bah, du coup, en fait, les couleurs, c'est vraiment un peu aussi au feeling. Quand c'était justement toute la série qui était autour de l'Espagne, il y avait des couleurs beaucoup plus vives. C'était autour du rouge, du rose. Voilà, il y avait des couleurs pastels. Voilà, il y avait des couleurs un peu plus flashy. Parce que ça va avec un peu le mood de l'endroit où je suis. Pour Prague, je voulais un côté un peu plus underground, on va dire. Et du coup, on va être plus sur des couleurs orange, vert, il y a aussi du bleu et du rose avec la tour de Prague, la tour de télévision de Prague. Mais là, ouais, c'était vraiment le côté zoomé dans l'image, sélectionner en tout cas des parties des bâtiments et nous sortir dans un univers, en tout cas un autre paysage qui ne nous renvoie pas forcément un paysage de la Terre. Et c'était un peu ça aussi, faire participer le spectateur dans ce voyage et pas juste montrer des photos de vacances. Concrètement, je voulais pas du tout que ce soit ça. C'était comment je voulais impliquer le spectateur, vraiment penser au spectateur en me disant, bah, s'il voit toutes ces couleurs là, quel sentiment, quelle sensation ça va leur faire. Et du coup, voilà, chaque endroit où je vais sélectionner les couleurs selon un univers, en tout cas un mood que j'ai envie de représenter, en tout cas que le spectateur j'ai envie que le spectateur ressente ça, quoi.
Et t'as déjà eu des retours?
Des retours?
Oui, par rapport aux couleurs, les ressentis.
Oui, oui. Souvent, beaucoup, forcément, des amis, puisque c'est à eux que je vais beaucoup montrer forcément plus facilement, ou mon compagnon, ou la famille. Mais par contre, ouais, autour des expositions que j'ai faites, j'en ai fait, du coup, là, c'est la quatrième. Ouais, j'ai eu pas mal de retours, et les gens sont plutôt... justement, eux-mêmes à me le dire un peu en mode « Ah, mais je ressens plus la photo comme ci ou comme ça. » Et en général, c'est dans le juste. Donc, c'est que pour l'instant, je ne me suis pas trompé pour le moment. Après, voilà, ça arrive aussi, les erreurs, et c'est pas très grave. Mais des retours que j'ai eus, franchement, les gens sont très assez ravis et comprennent un peu l'univers que j'ai envie de faire passer. Donc, c'est que pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je suis content.
Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as pris des tours en photo. Donc, par exemple, en France, tu as pris la tour Perret à Amiens. En Tchéquie, tu as aussi pris des tours, mais tu les as prises au format paysage et pas au format portrait. Donc, on ne voit pas la grandeur de la tour. Est-ce que c'est voulu?
C'est totalement voulu et ça a été totalement réfléchi. Grosso modo, moi, ce que j'aime en fait dans l'image, c'est que quand elle respire. Et justement, ce qui était intéressant, c'est qu'en République tchèque, en fait, j'avais un autre appareil photo qui était un Nikon D330, enfin D3300, un truc comme ça, bref, qui était maintenant que j'utilise plus, mais j'avais un énorme zoom et c'était hyper pratique pour sélectionner justement, comme je disais, les parties de bâtiment. Et du coup, justement, avec la tour, je voulais aussi qu'elle respire. Et donc, du coup, plutôt que faire de la verticale, j'ai vraiment pratiquement tout fait. Toutes mes photos sont en format paysage, donc en horizontal. Et ouais, il y a un peu cette respiration, mais toujours avec une sélection de cette tour. Donc, la photo, elle est en trois parties. En tout cas, ça marche comme un triptyque. Donc, il y a un des modules pour qu'on se fasse une idée un peu. La tour, en fait, il y a des sortes de modules qui sont autour, un peu carrés, un peu cubiques, qui finissent forcément par une antenne. Du coup, l'antenne est au milieu. Et il y a vraiment la première photo qui est un des modules, l'antenne, et ensuite un module un peu, où on voit un peu plus la succession de modules avec les sortes de gros panneaux. Des antennes, etc., des paraboles. Donc, je trouvais ça un peu marrant aussi, un peu futuriste. Et du coup, non, voilà, c'est que de la verticalité, parce que, de l'horizontalité, pardon, parce que justement, je veux que la photo respire. Je veux pas. On sait que c'est une tour. J'ai pas forcément envie que la verticalité de ma photo. On a compris, je pense que c'est pas ça qui est plus intéressant. Mais par contre, maintenant, je me lâche plus sur faire des photos en format portrait. Ce que avant je ne faisais pas, et je sais pas, j'ai eu un déclic et maintenant je me force à faire ça comme exercice, en fait, à sortir un peu des sentiers battus, donc faire plus de la verticale, de la photo verticale. Et pour l'instant, pareil, ça se passe bien. J'aime plutôt bien. Voilà.
Et donc t'as pas pris que de l'architecture, t'as aussi pris une photo de Rennes en Finlande. Pourquoi est-ce qu'il y a des rennes en plein milieu de tous ces bâtiments?
Franchement, premièrement, c'est vraiment peut-être bête, mais parce que je l'aimais bien dans ma sélection de photos, parce que j'en ai pris quand même beaucoup. En fait, des photos que j'ai retouchées, j'en ai sélectionné de la Laponie, il y en a 70 en tout. Mais forcément, je ne peux pas montrer 70 photos, parce que pareil, c'est un coût. Là, c'était à l'époque où j'ai répondu à l'appel à projet envoyé par l'Office de tourisme, donc c'était en 2022 déjà, donc il y a eu du temps qui s'est passé. Et entre-temps, je me suis professionnalisé, etc. Mais forcément, c'est un coût. Être photographe, c'est un peu toujours compliqué. De toute façon, être artiste de base, c'est toujours compliqué pour être rémunéré. Donc là, je ne pouvais pas en mettre beaucoup. Et ces photos de Rennes, c'est vraiment... je les ai sélectionnées parce que je les trouvais belles. Et en plus, ça cassait un peu justement... Ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que du bâtiment ou du paysage, et là je voulais un petit peu de vie, même si c'est pas la photo, si vous venez la voir, elle est floue, il y a un côté un peu artistique et très très space, mais ouais, j'ai pas forcément d'explication, ou je vais pas partir dans un truc de oui c'était fait exprès, parce que non, j'aime bien, ça casse un peu le délire, et puis je la trouvais juste jolie, donc je voulais la mettre, voilà.
Et simplement. Et justement, comment est-ce que t'as choisi, comment t'as sélectionné tes photos?
Ça, c'est parce que, comment je les sélectionne en général, c'est parce que, premièrement, je les aime bien. Voilà, quand Prague, pareil, je ne sais plus combien j'en avais de retouchés, mais ouais, l'exemple de Laponie, parce que c'est assez récent, j'en avais, du coup, à la fin, j'en ai 70 de sélectionnés, enfin, de retouchés que j'aime bien. Et ensuite, c'est... tout simplement, il y a l'espace qui rentre en compte, où c'est assez limité, donc je ne peux pas non plus en avoir beaucoup. Il y a l'argent aussi, donc comme je disais, je ne peux pas en faire presser plusieurs, autant que je veux, donc je me limite. Et du coup, ensuite, ça vient de souvent la vie de mes amis ou de mon compagnon, ou de ce qu'on me dit et de ce que moi j'aime bien. Donc c'est comme ça un peu que je fais ma sélection. C'est un peu celle qui est les préférées des gens qui m'entourent. Où je vais forcément dire ce sera peut-être plus celle-ci ou celle-là. Après, j'essaie aussi de faire en sorte qu'elles se répondent les unes des autres, pour qu'il y ait quand même une histoire, en tout cas un fil rouge qui se déploie. Donc ça va être un peu ça aussi. Il y a des photos que j'aimais beaucoup et que j'ai pas pu mettre parce que concrètement, se répondait, je sentais que ça allait pas se répondre avec les autres et que ça allait être un peu justement bizarre qu'elle soit là, malheureusement. Peut-être que si j'en avais mis plus de la Laponie, ça aurait été fondu dedans. Mais là, ce n'était pas le cas. Il y en a 9, je crois. Donc forcément, neuf, c'est pas non plus énorme. Donc fallait faire des choix esthétiques, pratiques, mais aussi parce que voilà, j'écoute l'avis de mes proches et qui m'aident, qui m'orientent en tout cas. Parce que forcément, une fois que quand t'es tout le temps dedans, tu vois pas forcément les défauts ou tu sais même plus, même à la limite, je sais même plus pourquoi j'aime ou j'aime plus la photo ou autre. Mais voilà, ça m'oriente quand même pas mal dans mes choix et ils m'aident beaucoup en tout cas là-dedans.
D'accord. Et donc, comment tu développes tes photos?
Moi, je passe par un site qui s'appelle Wet Wall, qui est une boutique en fait, qui est à Paris, Berlin, un peu partout. J'avais vu la pub, c'était dans le mépris, avec du papier que je connaissais déjà plus ou moins. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je reçois la commande, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et pour l'instant, je suis assez conquis par le produit, donc ça me va.
Et donc à l'exposition, à l'office de tourisme, tes photos, elles sont à vendre. Pourquoi le choix de les vendre? Et oui, pourquoi le choix de les vendre?
Bah parce que vu que je me suis mis à considérer ça quand même comme des œuvres d'art, je me suis dit bah autant aussi en tirer un certain avantage parce que bah voilà, c'est comme je disais, ça c'est un coût et faut bien aussi vivre. Essayer en tout cas de vivre, parce que c'est pas du tout sur la vente de photos que je vis de mon art, mais voilà, c'est j'avais lancé ça, et bien entendu c'est avec des tirages limités, à la vente c'est à chaque fois c'est signé, numéroté, voilà, donc pour moi je m'arrête à 10 tirages, parce que pareil sinon ensuite moi je m'y retrouve plus et je me lasse aussi dans mes séries, et donc j'ai envie des fois de passer à autre chose, et puis si ça s'est pas vendu, c'est pas vendu, c'est pas grave, il n'y a pas de problème à ça, mais du coup voilà, donc j'ai fait le choix de me dire bah vas-y je les vends comme ça, c'est toujours sympa de se dire ah les gens ils ont acheté tes œuvres et les exposent chez eux, enfin, c'est aussi un peu valorisant quoi, donc voilà, j'aime bien partager là-dedans quoi.
Et donc on arrive à la fin de l'interview, t'as déjà exposé à la Maison de la Culture dans le cadre du FIFAM ou encore au Centre Culturel Jacques Tati, maintenant l'Office de Tourisme, est-ce que t'as d'autres projets?
Malheureusement pas vraiment. Les seuls projets photos, c'est continuer à faire des séries, continuer à en prendre. Ensuite, objectivement, c'est toujours dur de répondre à des appels à projets. Il y en a soit pas beaucoup, en tout cas dans les thématiques dans lesquelles auxquelles je pourrais correspondre, ou trouver des lieux, pareil, c'est toujours un peu compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est parce que c'était vraiment un appel à projet et que j'ai été sélectionné. Mais sinon, c'est vrai que trouver des lieux, en tout cas démarcher des lieux, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il n'y en a pas non plus des masses, des galeries d'expo ou autres. Et là, en plus, c'est parce que c'est des circonstances qui font que j'ai pu exposer. Donc, voilà, au Centre Culturel Jacques Tati, je connaissais un peu l'équipe. C'était vraiment la toute première expo. Ensuite, il y a eu le Green Corner. Bah, j'y suis allé au culot, j'ai juste demandé, ils m'ont accepté. Pareil pour le FIFAM, c'était parce que je connaissais les gens de l'équipe du FIFAM et qu'en plus, mes photos rentraient dans le thème de la ville, qui était le thème du FIFAM de l'année dernière. Donc, c'est vraiment des coïncidences et du réseautage, en fait, parce que j'ai réussi pour l'instant à me débrouiller. Mais c'est vrai que quand tu démarches par toi-même des appels à projets ou des lieux et autres, en général, c'est toujours plus compliqué de réaliser ça, ou en tout cas, même de t'exporter dans une autre ville. Enfin, c'est complexe, quoi. Donc, pour l'instant, pas trop de projets au niveau de la photo. Après, l'expo reste quand même 2 mois, donc c'est déjà bien. Et là, je vais plus potentiellement me remettre aussi à la vidéo, qui me manque beaucoup et qui est totalement autre chose. Mais voilà, je pense que ça va être un peu mon projet de cette année, c'est de me remettre au cinéma ou à la vidéo expérimentale. Voilà.
Très bien. Et est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur les réseaux sociaux ou autres?
Oui, j'ai mon Instagram, donc @voltekk, VOLTEKK. Voilà.
Très bien, bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je rappelle que l'exposition est visible depuis le 19 juin et jusqu'au 16 août 2026 à l'Office de Tourisme d'Amiens, aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme. Merci.
Merci. I
when I said into my eyes, then I never feel the same.
De Carré Court, toujours sur le 87.7 FM. Et maintenant, ma chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur, compositeur, interprète, chanteur et surtout considéré comme l'un des meilleurs guitaristes du XXe siècle, Jimi Hendrix. Johnny Allen Hendrix, renommé plus tard James Marshall Hendrix par son père, est né le 27 novembre 1942 à Seattle, aux États-Unis. Alors qu'il n'était même pas encore né, son père dut partir pour l'armée. Problème, sa mère est alcoolique et est donc dans l'incapacité d'assumer l'éducation de Jimmy. Son père obtient donc sa garde dès qu'il est démobilisé. C'est à ce moment qu'il le rebaptise Jem Marshall Hendrix. Jem est profondément affecté par les conditions de pauvreté et de négligence dans laquelle il a grandi. Le divorce de ses parents lorsqu'il a 9 ans et la mort de sa mère alcoolique en février 1958. Son père, lui aussi alcoolique, le bat à maintes reprises. Le jeune Jimmy se prend d'intérêt pour la musique, influencé par la plupart des artistes majeurs de son temps, comme B.B. King, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Buddy Holly et Robert Johnson. À ses 15 ans, son père lui offre sa première guitare. Il passe tout son temps dessus, ses résultats scolaires sont en forte baisse, mais lui, il n'a qu'une seule idée en tête, devenir musicien. Pas longtemps après, il intègre son premier groupe, The Velton. Il quitte le groupe et ne met pas longtemps avant d'intégrer un nouveau groupe, The Rolling King, avec sa première guitare électrique que son père lui a offert. En 1961, il s'engage dans l'armée pour éviter la prison. Il a finalement quitté dans 2 ans plus tard, à cause d'une blessure suite à un saut en parachute. De retour chez lui, il devient musicien de séance. Un musicien de séance est un musicien, instrumentiste ou vocaliste dont l'activité principale est de jouer les parties instrumentales écrites par différents auteurs ou compositeurs. Il a notamment joué avec des grands noms comme Ike et Tina Turner, Sam Cooke, Isley Brothers et Little Richard. Le problème, c'est que Jimmy ne sait pas être simple. Il improvise beaucoup, il prend la place sur scène et fait de l'ombre aux grandes stars qui l'accompagnent, ce qui ne leur plaît pas. Il se fait donc virer et forme son propre groupe, Jimmy James and the Blues Flame, délaissant le rôle d'accompagnateur pour celui de lead guitariste. En 1966, il rencontre Sal Chandler, ancien bassiste du célèbre groupe The Animal, qui veut devenir manager. Chandler lui propose alors de venir se faire connaître et d'enregistrer son premier single au Royaume-Uni. Alors, en pleine effervescence musicale avec des groupes comme The Beatles, les Rolling Stones, Jimmy accepte à une seule condition, de voir Eric Clapton. Arrivé en Angleterre, Jimmy voit un concert de Cream, un de ses groupes de Clapton. Et petite anecdote, Clapton aurait accepté que Jimmy fasse un concert avec eux et aurait écrit plus tard dans son autobiographie « Il a joué de la guitare avec les dents, derrière la tête, allongé par terre, en faisant le grand écart et d'autres figures. C'était stupéfiant et génial musicalement, pas uniquement un vrai feu d'artifice à contempler. J'ai pris peur car juste au moment où on commence à trouver notre vitesse de croisière, voilà qu'arrivait un vrai génie. » Le 16 décembre 1966, l'expérience sort Hey Joe, son premier single. Il reste 10 semaines dans les charts anglais, culminant à la 6e position au début de 1967. Ce single est rapidement suivi d'un album, Are You Experience, considéré comme l'un des meilleurs albums disques de rock par la critique. C'est une mosaïque musicale psychédélique riche des hymnes d'une génération. Are You Experience est resté dans les albums rock les plus populaires grâce aux titres comme Purple Haze, The Wind Cry Mary, Fox Lady ou Fire. Bien que Hendrix remporte un succès foudroyant aux Angleterres, ce n'est qu'à son retour aux États-Unis en juin 1967, quand il enflammera le public de Monterey International Pop Festival avec sa version incandescente de Wilching, que Jimi Hendrix Experience deviendra l'une des formations les plus populaires, et ses tournées sont parmi les plus lucratives au monde. Dès la sortie de leur nouvel album électrique Ladyland, les rapports au sein du groupe deviennent compliqués et ils finissent même par se séparer le 5 avril 1969. En août 1969, ils reforment le trio Hendrix Scott Mitchell sous le nom de Gibb Sisson and the Rainbow pour le festival Woodstock. Mais le groupe n'arrive pas à progresser. Il change alors de batteur début 1970 pour Buddy Mills et se renomme Bone of Gypsies. Suite à ça, Jimmy enchaîne les concerts décevants. Il ne joue plus en improvisant, il devient irrespectueux du public, part en plein concert, et même quand tout se passe bien et que Trio joue à son meilleur niveau, Jimmy finit souvent par partir en jetant sa guitare. La santé de Billy Cox oblige le management du groupe à annuler sa tournée suite à un concert donné sur l'île Fehmarn en Allemagne le 6 septembre 1970. Ce fut le dernier concert de Jimi Hendrix. Il meurt le 18 septembre 1970. Il est retrouvé noyé dans son vomi dans l'appartement de sa copine au Samarca Hotel de Londres. Et les théories sur la mort sont nombreuses. L'ambulance en donnait aurait mis trop de temps pour arriver sur les lieux. L'entourage n'aurait pas positionné correctement la tête d'Hendrix pour éviter les vomissements. Le manager Michel Jefferet aurait empoisonné Hendrix pour éviter de se faire virer. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit. Mais la raison la plus évoquée est qu'il se soit étouffé dans son vomi suite à la prise de barbiturique et de 9 comprimés de somnifères. Voilà, c'était l'histoire d'un guitariste considéré selon le magazine des Rolling Stones ou même le magazine Rock'n'Folk comme le meilleur guitariste de tous les temps pour son jeu novateur, son génie créatif, son son unique créé grâce à une maîtrise exceptionnelle de ses pédales d'effet mais aussi des réglages de simplificateurs. Il est aussi fortement connu pour avoir été l'un des premiers à beaucoup se servir dans son vibrato et des Larsen qu'il arrivait à contrôler parfaitement. C'est tout cela qui fait qu'il a marqué l'histoire de la musique et qu'il est source d'inspiration encore aujourd'hui pour beaucoup. Avant de continuer, Jean-Marie, bénévole à la radio, a reçu l'association Alternativa, qui lance une campagne de mobilisation contre le gâchis lié à l'obligation de faire migrer son ordinateur vers Windows 11. L'association propose des solutions à l'échelle locale. On l'écoute tout de suite.
Oui, aujourd'hui, parmi les événements à retenir, ce jeudi 25 juin, à l'auberge de jeunesse de 18h à 20h, aura lieu une install party. Alors, l'install party est organisée par Alternativa. Véronique, tu fais partie d'Alternativa. Donc, en quoi ça consiste, cette install party ?
Une install party, c'est un événement où on peut installer Linux à la place de Windows sur son ordinateur. Pourquoi ? Parce que Windows a décidé d'arrêter les mises à jour de Windows 10, ce qui met en péril les ordinateurs qui continuent à utiliser Windows 10, et ce qui va obliger beaucoup de monde à passer à Windows 11, et souvent, pour 22% des ordinateurs, à acheter un nouvel ordinateur parce que l'ancien ne peut pas passer à Windows 11. Or, ils peuvent passer à Linux.
Eh bien ça, on en parlera quand tu viendras la semaine prochaine dans le studio pour nous raconter tout ça.
À l'occasion des 125 ans de la loi de 1901 sur les associations, pendant tout le mois de juin, le mouvement associatif lance la campagne « La France qui se bat ». 15 portraits d'associations ont été produits par des radios associatives avec la Confédération nationale des radios associatives. Aujourd'hui, on écoute CMF Radio qui nous présente une sur cinq.
Depuis 125 ans, les associations font battre le cœur de la France. Avec La France qui se bat, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent partout sur le territoire.
Une femme sur cinq a déjà été victime de violences sexistes et sexuelles au travail.
Ici, ça n'existe pas.
Si, le harcèlement sexuel ne s'arrête pas aux portes de cette entreprise. Ne fermons plus les yeux.
Canel Rechin est la coordinatrice de l'association 1 sur 5, qui est un espace ressource contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Elle est basée dans le Tarn et rayonne sur toute l'Occitanie.
On ne traite que de ce sujet-là, qui est un sujet très spécifique, qui est à la croisée des champs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, lutte contre les violences faites aux femmes, d'égalité entre les femmes et les hommes, et des sujets aussi de droit du travail. Donc on le fait à travers trois missions. On a une mission d'information, de soutien et d'accompagnement des personnes qui sont exposées à ces violences. Et puis on a également une mission de formation de tous les acteurs et toutes les actrices qui sont en charge dans les entreprises ou en parallèle de prendre en charge ces violences, traiter les situations, les prévenir et accueillir les victimes de manière générale. Et enfin, une dernière mission d'information et de sensibilisation du grand public pour essayer de délivrer un maximum d'informations sur ce que sont les violences sexistes et sexuelles au travail et qu'est-ce qu'on peut faire si on y est confronté.
Dans le Tarn, une femme sur cinq, ça représente potentiellement 14 000 femmes concernées sur un seul département. Les violences sexistes et sexuelles regroupent à la fois les paroles et les comportements de harcèlement, d'exhibition ou d'agression sexiste ou sexuelle.
Je me sens responsable de ce qui m'arrive et c'est vrai que j'ai beau le tourner dans ma tête. Ce qui est dur aussi, c'est que mes collègues, ils ont fait que de me dire ça depuis 2-3 mois, là, que c'est de ma faute. Donc voilà, c'est aussi très dur à apporter, du coup.
Ok, oui, j'entends. Et vous savez, vous êtes la plupart des personnes qu'on accompagne et qui sont exposées à ce type de violence peuvent ressentir ce que vous ressentez actuellement, mais c'est très important de savoir que vous êtes en aucun cas responsable de ce qui vous arrive. La seule personne responsable, c'est la personne qui vous a agressé sur votre lieu de travail. Et puis, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est responsable dans cette situation, c'est votre employeur, parce qu'on n'a pas pu en parler jusque-là, mais en fait, votre employeur est responsable de votre santé, de votre sécurité sur votre lieu de travail. Votre employeur doit interdire tout fait de violence sexuelle et doit mettre en place des actions pour vous protéger, pour prendre en charge ces violences et pour sanctionner l'auteur des faits. Donc là, rien de tout ça a été fait et c'est bien ça qui est problématique dans votre situation et c'est là-dessus que vous allez pouvoir agir, peut-être si vous le souhaitez.
Une sur cinq est la seule association d'Occitanie spécialisée sur ces sujets de violences sexistes et sexuelles au travail.
Alors en 2025, il y a à peu près 800 personnes qui ont participé à nos actions, donc que ce soit sur l'accompagnement de victimes, où là c'est quelques dizaines de personnes, et puis sur aussi les actions de formation et de sensibilisation, où là on a pu toucher des grands nombres de personnes et sur des publics très divers. Il y a des gros enjeux, nous on le dit, de formation, d'outillage des employeurs pour réellement prendre à bras le corps ce sujet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, au niveau réglementaire en tout cas, il y a des lois qui obligent les employeurs à agir, mais derrière, ces lois ne sont pas forcément suivies des faits. Et on le voit quand les victimes nous sollicitent et qu'elles nous font part de leur récit. Bien trop souvent, les employeurs soit ne sont pas vraiment au courant de leurs obligations, soit appliquent des sortes de process qui sont pas réfléchis et qui ne correspondent pas du tout aux besoins. Et donc, les victimes se retrouvent pas crues, jugées, voire sont obligées, pour la plupart, en fait, de quitter leur travail. Donc, il y a un énorme enjeu à ce niveau-là. Et puis après, il y a évidemment tous les enjeux au niveau du traitement judiciaire de ces violences qui, aujourd'hui, l'ensemble quasiment des violences sexuelles en France L'immense majorité sont classées sans suite et évidemment les violences au travail ne font pas exception.
30% des victimes de violences sexistes et sexuelles au travail ne parlent jamais à personne des violences qu'elles ont subies. En Occitanie, l'association 1 sur 5 informe et accompagne les victimes, forme les employeurs et sensibilise le grand public.
La France qui se bat, une série au cœur des associations. Pour découvrir la campagne et vous engager, rendez-vous sur www.lafrancequi-se-bat.fr.
Et c'est la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Daily Swing Things de Wolf Alice. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain sur Radio Campus Amiens. Bonne journée à toutes et à tous.
Music in a band, he's making a movie and the school needs a hand.